On va continuer dans l'étude de la lettre aux Hébreux. Donc, Hébreux, on arrive au chapitre 12. On a terminé le grand chapitre de la foi. Et on arrive peut-être dans ce qu'on pourrait appeler le chapitre de l'espérance. L'espoir. Chapitre 13, ce sera le chapitre de l'amour en quelque sorte. On va lire, prier et étudier le début de ce chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Arrêtons-nous là. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est digne de foi, sur laquelle nous pouvons baser nos vies. C'est elle qui est la vérité, c'est elle qui redresse nos pensées déformées par l'influence du monde, le monde qui est sous la coupe de l'ennemi, qui nous fait croire des mensonges, qui veut nous décourager, qui veut nous conduire à abandonner le combat, Seigneur. Merci parce que tu viens pour nous encourager, tu viens pour nous dire de quoi il ressort définitivement, en fin de compte. Et Seigneur, tu es notre exemple, tu es notre inspiration, tu es celui sur lequel nous devons fixer nos yeux, Seigneur. Merci pour le privilège de nous avoir engagés dans cette épreuve, dans cette course que tu nous demandes de courir en fixant les yeux sur toi, Seigneur. Aide-nous ce matin à mieux comprendre ce que cela signifie, à mieux te connaître, à mieux t'apprécier et à mieux t'obéir, Seigneur. Nous voulons penser aussi à tous nos frères et sœurs dans cette ville qui se réunissent ce matin ou cet après-midi, Seigneur. Que tu les bénisses aussi par ta présence et par l'instruction de ton Esprit Saint avec ta parole, qu'il a inspirée et qu'il nous restitue. Sois béni, Père. Sois béni d'enseigner aussi les enfants les plus petits comme les ados. On te remercie pour ceux qui se dévouent à cette tâche. Remplis-les de joie et merci de voir aussi, Seigneur, que cet enseignement n'est pas en vain, que des vies sont transformées, que des gens sont encouragés à te suivre de tout leur cœur. C'est notre prière ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce passage. C'est un des grands passages de la Bible. On a plusieurs passages qu'on peut mémoriser. Ces quelques versets font partie de ces versets que vous pourriez mémoriser, prendre le temps de vous les répéter, de les écrire sur une petite carte, les mettre devant sur votre miroir lorsque vous vous rasez pour les messieurs ou lorsque vous coiffez pour les dames. C'est un verset clé dans la vie chrétienne de chaque chrétien. Elle nous apprend que nous avons une épreuve devant nous, une course à courir. Ce passage commence en se référant bien sûr à ce qui précède. Il dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. » Il fait allusion, on a vu la semaine dernière, des grands exemples d'hommes de la foi. Et on a vu que la foi, c'était la foi qui pouvait être la foi qu'on exerçait et qui nous conduisait à vivre des victoires, mais c'était aussi la foi qu'il fallait exercer lorsqu'il y avait des souffrances et qu'il fallait persévérer sans renier Jésus-Christ. Et on a dit que ce qui importait, c'était d'avoir la bonne vision des choses, d'avoir la bonne perspective sur ce qu'est la vie chrétienne. Qu'est-ce qui nous attend ? Et là, il est question d'être entouré d'une grande nuée de témoins. Le mot « témoin », c'est le mot qui a donné le mot « martyr ». Et donc, c'est de vivre de façon à montrer aux autres que l'on croit en Jésus-Christ. C'est donner un témoignage de notre foi par la vie que nous menons. Il y a souvent, relativement à ce passage, et ce n'est pas une mauvaise chose que d'avoir cette image, même si le texte ne la justifie pas complètement. Souvent, on a dû vous dire qu'en fait, on est là, au milieu d'un stade, et que tous les grands hommes de la foi sont assis dans les gradins et qu'ils nous regardent courir la course en nous encourageant. « Allez, vas-y Imad, vas-y Enrico, te laisse pas faire Élie, continue Héloïse. » Et c'est une image frappante parce que il n'y a pas très longtemps, on a vu Roland Garros, je crois que c'était la finale, c'était dimanche dernier, et d'imaginer tous ces témoins, alors je ne pense pas qu'ils aient des petits chapeaux sur la tête, comme à Roland Garros, les Panama, les chapeaux blancs et avec une bordure noire, Fedora, je crois qu'on dit en anglais. Mais malheureusement, il n'est pas dit qu'ils sont des spectateurs, ce sont des témoins. Ils sont autour de nous, dans nos pensées, dans le monde invisible, ils sont peut-être là à nous dire « vas-y, à nous encourager, j'ai pu le faire, toi aussi tu peux le faire ». Parce qu'en fait, ce qui comptait, ce n'était pas mes qualités d'homme, c'était la présence de Jésus-Christ à mes côtés, c'était l'Esprit-Saint en moi qui m'a permis de le faire. Il nous est dit qu'il y a une épreuve, c'est aussi le mot « course » qui nous est proposé, et c'est pas le mot habituel pour la course qu'on fait sur une courte distance, c'est pas le mot « dromos » qui nous donne l'hippodrome, le synodrome, c'est le mot qui veut dire plutôt le marathon. La course que nous avons à courir en tant que chrétiens, ce n'est pas quelque chose que l'on fait en quelques minutes. On court un 100 mètres en moins de 10 secondes aujourd'hui, si on est vraiment bon. Non, la course auquel Dieu nous appelle dans notre vie chrétienne, c'est une course d'endurance. Et il va nous dire, il va nous donner des conseils. L'idée de ce stade ou de cette endroit où il y a plein de spectateurs, beaucoup de commentateurs ou de pasteurs ou de gens qui exposent la Bible se sentent libres de l'utiliser en insistant. Pourquoi ? Parce que Paul était un grand amateur de sport. Il fait souvent allusion au monde du sport de l'époque. Par exemple, dans 1 Corinthiens 9, 24, il dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix. Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même disqualifié. » Il avait cette imagerie, ces références qui lui permettaient d'exprimer ce que c'était que d'être un chrétien. Dans Philippiens 3, 12, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. » Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc encore une fois, ce n'est pas une course de sprint, ce n'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. Il est toujours facile de partir vite, même pour un 100 mètres. Tout le monde peut courir à fond la caisse pendant 5 mètres. Mais après, si on n'est pas entraîné, on va commencer à ralentir brutalement. Les autres vont nous dépasser. Ou alors on va commencer à avoir des crampes. On va commencer à arrêter finalement. L'important, c'est de tenir la distance. C'est de savoir se ménager, c'est de prendre des bonnes habitudes sur le long terme. Et vous avez sans doute rencontré des nouveaux chrétiens, comme on dit, tout feu, tout flamme. Plein de zèle et plein d'ardeur. Mais souvent, ces personnes vont se refroidir rapidement. La vie chrétienne, ce n'est pas une promenade dans un jardin de roses. Si vous aimez les roses, je pense qu'en ce moment, à Cimier, elles doivent sentir bon, peut-être que c'est déjà un peu trop tard avec la chaleur. Ce n'est pas une partie de pique-nique, mais c'est une épreuve. Et c'est quelque chose qu'on ne dit pas aux jeunes chrétiens. Mais le mot qui décrit cette vie chrétienne, cette épreuve que nous avons dans laquelle nous devons participer, c'est un mot qui nous a donné le mot agonie. Agonie. Être à l'agonie, ça veut dire n'en pouvoir plus, être près de mourir pratiquement. L'agonie de quelqu'un, c'est la fin. Et cette épreuve, c'est la même sens, c'est quelque chose où on donne tout, où on est prêt à donner jusqu'à sa vie. Mais avant de se lancer dans cette course, il nous donne des choses à faire. Il nous dit de rejeter tout fardeau est le péché qui nous enveloppe si facilement. Quand on fait une course, quand vous étiez plus jeune ou quand vous êtes maintenant, vous faites des épreuves sportives pour passer le bac ou avant, généralement, pour courir une course de vitesse, on ne met pas ses chaussures de randonnée. On va prendre des chaussures les plus légères possibles. On ne va pas, même si c'est en hiver, mettre une grosse doudoune pour courir une petite course rapide ou une course de longue durée. Non, on va enlever ce qui serait préjudiciable à notre avance, ce qui nous encombrerait. Il faut vraiment se débarrasser, rejeter, comme on enlèverait un vêtement qui nous empêcherait de pouvoir bouger rapidement. Il y a deux choses dont il faut se débarrasser. Il nous parle d'abord de tout fardeau. Fardeau, c'est quelque chose, c'est une grosse masse. Et c'est vrai que si vous allez faire une épreuve sportive, vous n'allez pas vous charger d'une bonbonne de gaz ou de quelque chose de très lourd, ou d'une chaise, ou ce serait absolument ridicule. Ça ne vous viendrait même pas à l'idée. Le fardeau, c'est toute masse, tout poids inutile. Et ça commence par le poids qu'on porte sur soi. L'athlète doit d'abord éliminer ses kilos superflus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens qui vont faire le marathon. Il y a peu de gens obèses qui se présentent au départ des marathons. Personnellement, je n'ai jamais couru un marathon. J'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle le jogging. J'ai couru des 10 kilomètres. Je m'étais entraîné une fois pour un marathon, justement pour être en forme. Et je m'étais blessé le genou, j'avais dû arrêter, et j'avais décidé que je préférais pouvoir courir un petit peu tout le temps, plutôt que de faire un marathon et de ne plus pouvoir courir pendant des mois. Mes deux fils ont couru un marathon, ils se sont entraînés pas tellement parce qu'ils sont en bonne forme. Mais je me souviens qu'à un moment, quand je me préparais pour le marathon, j'avais perdu près de 10 kilos. J'avais du poids à perdre. Et quand j'avais commencé à courir après avoir perdu ce poids, je me disais, mais je me sens tellement plus fort. Et puis j'ai réalisé, en fait, c'est comme si j'avais eu un sac à dos rempli de sable, de 10 kilos de sable, et qu'en fait, je l'avais posé par terre pour pouvoir courir. Et c'est la même idée. Il faut d'abord laisser le poids, les kilos superflus. Et les athlètes de l'Antiquité, ils se mettaient nus pour courir, pour faire participer aux épreuves athlétiques. Et le mot, on a à côté un grand bâtiment qui s'appelle en français un gymnase. Et un gymnase, ça vient de gymnos, qui veut dire nu. À l'origine, les athlètes étaient nus pour ne pas être embêtés par les vêtements qui peuvent vous empêcher de vous déplacer du mieux que vous le pouvez. Ces fardeaux, il y a une distinction entre les fardeaux et le péché. Les fardeaux, ça peut être quelque chose qui n'est pas mauvais en soi. À côté des athlètes, et des kilos superflus que l'athlète dont il doit se débarrasser, c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Et quelqu'un demandait à un pasteur, est-ce qu'il pouvait faire une telle chose? Et le pasteur lui a répondu plutôt, ça n'est pas un problème si vous ne cherchez pas à gagner. Vous pouvez courir avec votre petit sac à dos de 5 kilos, de 10 kilos. et vous allez pouvoir participer à la course, vous allez pouvoir faire le marathon, mais si vous voulez gagner, il va falloir vous en débarrasser. Ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être dans le domaine de vos habitudes d'occupation, de loisirs. Est-ce que vos loisirs prennent une telle place dans votre vie que ça s'oppose à votre croissance, au temps que vous passez dans les choses spirituelles? Et encore une fois, c'est le Saint-Esprit qui va vous dire si c'est mauvais. Ce n'est pas nécessairement les gens qui vous entourent, c'est à vous de... Et je vous invite à prier, même maintenant, demander au Saint-Esprit qu'il vous demande peut-être des choses qui vous prennent du temps, de l'énergie, qui occupent une priorité qui est trop grande par rapport à ce que vous accordez à Dieu et ce que vous devriez accorder à Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui va vous condamner devant le tribunal de Dieu, mais c'est quelque chose qui va vous empêcher de gagner. Et on a vu que Paul nous rappelait, il fallait courir pour gagner. Et c'est intéressant parce que il y a un autre auteur, je vais lire d'abord ce qu'il disait. C'est en courant que le participant à la course découvre que telle chose qu'il n'aurait pas soupçonnée est en réalité un fardeau pour lui. Tant qu'il se tient debout sans bouger, il ne réalise pas que cette chose est un fardeau qui l'encombre. Ça peut être par exemple l'amour de votre pays, l'amour de votre culture qui vous empêche, ou de l'amour de votre famille, des proches, qui vous empêche peut-être de répondre à un appel missionnaire. Et ça peut être aussi trop de temps passé à un loisir ou un intérêt. Et peut-être que ce ne sera pas un problème pour vous, mais ce sera un problème pour un autre. Quand j'étais jeune chrétien, aux États-Unis, j'aimais beaucoup jouer au volleyball et ça me prenait beaucoup de temps. Je participais à des compétitions. Mon rêve, c'était vraiment d'être un champion de volleyball. Et puis, il y a un joueur que je connaissais, on jouait ensemble. Et lui a décidé de partir comme missionnaire au Népal. Il a abandonné le volleyball du jour au lendemain. Alors bien sûr, j'imagine qu'au Népal, il a eu l'occasion d'utiliser son talent pour connaître des gens, parler, jouer avec des jeunes, leur parler de Dieu, etc. Mais c'est là que moi aussi j'ai réalisé qu'en fait, je ne voulais pas participer à un groupe de maison. Ma femme voulait participer à un groupe de maison parce que c'est tombé le soir de l'entraînement de volleyball. Et c'est pas mauvais de s'entraîner au volleyball, mais j'ai réalisé que c'était un problème pour moi. Et en faisant cette étude, comme j'aime bien vous le dire, la Bible, elle n'est bien lue que si elle nous interpelle personnellement. Si je viens en disant « Vous, bande de mauvais chrétiens, qu'est-ce que vous faites ?» et que je me mets au-dessus de vous, j'ai rien compris parce que la Bible, elle doit d'abord m'interpeller. Et j'ai découvert en fait un fardeau qui m'empêchait de courir la course du mieux que je pouvais. C'est quelque chose qui est à la mode aujourd'hui, d'essayer de se libérer de ce fardeau. Même dans le monde séculier, dans le monde non spirituel, c'est l'accumulation des choses dont on devrait se débarrasser, des choses matérielles. J'ai du mal à jeter, si vous demandez à mon fils ou à ma femme, j'ai tendance à accumuler les choses. Et puis maintenant, le problème, c'est qu'avec eBay, on se dit que ce serait dommage de jeter ça alors qu'on pourrait peut-être faire un peu d'argent, qu'on pourrait donner à des œuvres chrétiennes si on prenait le temps de les vendre et de faire de l'argent. Mais en fait, il y a des conseils pratiques et sans doute certains d'entre vous sont très bons là-dessus. Si vous n'avez pas utilisé un vêtement depuis un an, deux ans, vous pouvez les jeter. Vous ferez le bonheur de quelqu'un peut-être, ou vous pourrez, vos vêtements seront recyclés. Si vous n'avez pas, et Nancy me dit, « Ah tiens, tu enseignes sur ça ?» Ça va dégager. On va faire du dégagisme chez les pétris. Mais c'est vrai que j'adore les bouquins. Et un jeune m'avait demandé une fois, on a une bibliothèque remplie de bouquins, ça déborde. Il y en a sous des meubles, il y en a qui sont empilés, on ne peut même pas retrouver les livres tellement il y en a. Mais c'est difficile pour moi de me débarrasser d'un livre. Alors on peut les amener à l'église, c'est un peu pour ça qu'il y a une grande pile de livres derrière, qu'on vous invite à consulter et à emprunter pour les lire. Mais j'ai remarqué qu'en fait, ça pèse sur mon esprit. C'est un poids que d'avoir tout ce fatras de choses. On a des boîtes qu'on n'a pas ouvertes depuis qu'on a déménagé, certains s'en souviennent, en 2007, de notre ancien logement jusqu'au nouveau. Mais c'est empilé contre le mur parce qu'un jour, je vais m'y mettre. Un jour. Et le Seigneur me dit, non, il faut que tu te débarrasses parce que c'est un fardeau. Dans mon esprit, ça, c'est gérer tout ce truc, chercher quelque chose qui peut-être est là. Généralement, je ne retrouve pas ce que je cherche. Et ça, c'est un exemple pour moi. Et peut-être que vous avez ce problème, peut-être pas, et tant mieux pour vous. Lindsay et Tonio sont très bons pour faire ça, d'autant qu'on a une cave où ils peuvent amener les choses qu'ils veulent garder au cas où, mais non, ils sont très très doués pour être rigoureux, et c'est une liberté, la liberté en jetant ce qui nous encombre mentalement, physiquement, intellectuellement. Voilà, alors peut-être que le Seigneur va vous montrer un autre fardeau, peut-être que vous l'avez aussi. On pourrait peut-être créer une association, les cumulards alcooliques anonymes, accumuler les choses, ne pas pouvoir se débarrasser. J'ai des vêtements que j'aime toujours, que j'ai achetés lorsque mes enfants n'étaient pas nés, avant qu'ils ne naissent. Et puis, c'est un fardeau dont il faut se débarrasser. Il faut aussi se débarrasser du péché. Et là, on est d'accord que le péché nous empêche de marcher avec Jésus, de courir avec Jésus, d'être vraiment engagé dans tout ce qu'il peut avoir en tête pour nous. Mais là, là aussi, le Saint-Esprit peut vous parler et vous montrer tous les péchés qui sont des problèmes dans votre vie chrétienne. Si vous ne pensez pas en avoir, je suis sûr que la plupart d'entre nous, nous pouvons tout de suite penser à des choses qui nous gênent. Des compromis qu'on a acceptés, dont on n'ose pas se débarrasser. On veut courir la course, mais on a nos casseroles attachées derrière nous et nos péchés. Mais là, il parle du péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché. Je vous rappelle qu'on vient de terminer le chapitre, le grand chapitre de la foi. Et le péché, ce qui semble être à l'esprit de l'auteur, c'est le péché de l'incrédulité. Le péché du manque de foi, le péché du doute. Tous ces héros de la foi, tout ce qui est dit qu'ils avaient fait, c'était pas en doutant. Ce qu'il y avait de bien dans leur vie, c'est ce qu'ils ont fait par la foi, avec la foi. Ils avaient dans un domaine rejeté l'incrédulité. Nous avons un ennemi qui veut nous faire douter. Chaque fois que nous péchons, c'est que nous faisons confiance au diable et non à Dieu. On est comme Adam et Ève qui disaient « Oui, c'est vrai, Dieu nous a dit de ne pas toucher à ce fruit de la connaissance du bien et du mal, mais c'est vrai ce que dit le serpent, c'est-à-dire le diable. En fait, il veut nous empêcher de connaître sa plénitude et de... » Et ils ont cru le diable et le péché est entré dans la race humaine et aujourd'hui on en vit les conséquences jusqu'au retour du Seigneur. Un des premiers objectifs du diable, c'est d'attaquer notre foi pour la détruire. Pierre disait « Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, notez bien, fermes en la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Satan aime bien nous promener sur le ring, pour employer une autre image. Il nous tente, nous tombons, nous succombons, et puis là, il vient nous condamner. Il dit « Ah, tu vas enseigner la Bible ce matin ? Tu vas te mettre sur l'estrade avec la Bible, après ce que tu as fait hier, la façon dont tu as traité ta femme ou tes enfants, ou ce que tu as fait ?» Il faut lui rappeler que notre péché est couvert par le sang. Nous avons la grâce de Dieu, sa puissance pour dire non au diable au péché, et quand nous trébuchons, il ne faut pas cesser de croire que Dieu veut et peut nous pardonner si nous venons à lui dans la repentance. Le Saint-Esprit veut nous convaincre de péché. C'est la conviction du Saint-Esprit. Tout à l'heure, quand je vous ai demandé de penser à ce que le Saint-Esprit pouvait vous dire comme fardeau qui vous retenait, comme péché peut-être, il vous a peut-être parlé, il vous avait convaincu de certaines choses, mais il ne veut pas vous condamner pour autant. Il veut vous pardonner et vous aider. Et il nous dit qu'il faut garder les regards sur Jésus. Il est l'auteur de la foi, ou c'est lui qui fait naître la foi, et c'est lui qui va la mener à la perfection. Nous devons garder les yeux fixés sur lui. Vous vous souvenez peut-être de l'épisode où Pierre, plein de zèle et de foi, a commencé à marcher sur l'eau, voyant que Jésus était à quelques encablures, debout sur l'eau. Il arrivait à marcher quand il regardait à Jésus. Et puis dès qu'il a commencé à regarder les obstacles, qu'il a regardé par terre, il a commencé à couler. Si vous courez, si vous faites du jogging sur la promenade des Anglais, je vous invite à regarder ce qui vous entoure, à regarder devant vous. N'allez pas regarder vos baskets ou vos chaussures pour voir comment si elles sont belles, si elles brillent au soleil ou si les gens regardent que vous avez une nouvelle paire de chaussures. Non, vous regardez là où vous allez, parce que là où vous regardez, c'est là que vous allez finir. Si vous regardez le... Alors il faut, en France, il faut savoir scanner pour les déjections canines, c'est le scanning du canine. Il faut éviter ça, bien sûr, mais on apprend à le faire tout en regardant devant là où on va. Parce que sinon, on ne va pas y aller. Et là, de la même façon, Il faut fixer nos yeux sur Jésus-Christ. C'est, en parlant de Roland Garros, c'est intéressant des fois les gros plans qui montrent l'intensité du regard des joueurs avant de frapper la balle. Ils ne regardent pas dans les tribunes pour voir si leur petit ami a mis son chapeau ou pas. Ils ont les yeux fixés avec une intensité fantastique sur la balle. Ça leur permet d'établir le contact, de la frapper comme il faut. Ils sont presque comme hypnotisés par la petite balle jaune. Fixer les yeux ou garder le regard, ça veut dire qu'on détache son regard de quelque chose pour le porter sur une autre chose. Et nous, nous sommes appelés à détacher notre regard des choses vaines du monde. La célébrité, la richesse, les plaisirs, toutes ces choses-là qui ne sont pas nécessairement des péchés en soi. Nous devons pourvoir aux besoins de notre famille, de Dieu a créé des bonnes choses pour que nous puissions les apprécier aussi. Mais est-ce que nous fixons nos yeux sur Jésus ? Moi, je sais que personnellement, quand je me suis senti, si j'ai des souvenirs où je me suis senti perdre pied dans la vie, c'est parce que j'avais détourné les yeux du Seigneur, ou c'était avant que je le connaisse. Et quand aujourd'hui je passe par des moments difficiles, des moments de déprime, c'est parce que je regarde les problèmes et non Jésus. C'est comme Caleb et Josué qui avaient vu le même territoire de Canaan que les autres 10 espions. Eux, les espions, fixaient leurs yeux sur les obstacles. Caleb et Josué fixaient leurs yeux sur la puissance de Dieu et lui faisaient confiance. Certains passages parlent de l'auteur de la foi. La traduction ici est meilleure. C'est lui qui est à l'origine, qui fait naître la foi. Ou une autre expression, ce serait, c'est le chef de file. C'est un peu comme si Jésus est le premier sur le stade. D'autres passages parlent du prince de la foi. Et on sait que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Romains 10, 17. La foi, ce n'est pas quelque chose de magique, qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est quelque chose qui se cultive en étudiant la parole, en recevant la parole du Christ. Et Jésus, non seulement il est à l'origine, mais il va amener notre foi à la maturité. Lui qui a commencé une œuvre en nous va la terminer parfaitement à l'heure de Jésus. Quand il va revenir, nous verrons Jésus. Nous n'aurons plus besoin de la foi, mais notre foi aura été rendue mature parce qu'elle nous aura permis d'atteindre ce moment-là. Il doit être encore plus que les autres héros de la foi, les Abraham, les Moïse, les Josué, etc. Jésus doit être notre exemple et notre inspiration. Sa foi, ça a été la plus grande parce que c'est lui qui avait le plus à perdre. Lui dont l'égalité avec Dieu, il n'a pas cherché à la garder comme une proie à retenir. Il s'est humilié jusqu'à la croix. Philippiens 2, « Ayez en vous la pensée qui est en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. » Dans le passage de Hébreux, il est dit qu'il a il a méprisé la honte qui s'attachait à la croix. Il y a un auteur du XVIe siècle qui disait « Nous, chrétiens, nous devons mépriser le monde, nous mépriser nous-mêmes et mépriser le fait qu'on nous méprise. » On doit être insensible à ce que les autres surtout les païens, pensent de nous, on doit être sensible à ce que Dieu pense de nous. Il a méprisé la honte. Et c'est vrai que cette mort sur la croix, c'était quelque chose d'absolument abject, honteux. Il a reçu de la honte par ses accusations. Lui qui était le Fils de Dieu, on l'a accusé d'être un blasphémateur. Il a reçu de la honte lorsque les païens, ceux qui l'entouraient, se moquaient de lui. Il a été battu de façon honteuse. On s'est moqué de lui. Il a été honteux lorsqu'on lui a mis une couronne d'épines parce qu'il disait être le roi. Il avait une tunique qu'on a déchirée. Et la croix était vraiment destinée à humilier de la façon la plus forte qui soit la personne qui recevait le châtiment. Et les gens se sont même moqués sur lui. Un des brigands s'est moqué de lui alors qu'il priait sur la croix. La question, c'est: est-ce que je suis prêt à recevoir un peu de honte pour le nom de Jésus-Christ ? Est-ce que mes voisins savent où je suis aujourd'hui ? J'aurais dit oui, je vais à la plage aujourd'hui. J'irai cet après-midi, donc ce n'est pas un mensonge. Mais je ne vais pas leur parler, ils vont penser que je suis bizarre. On peut trouver que c'est un peu bête, mais souvent ça peut être un frein à notre course, à notre démarche. Mais il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et on doit réaliser l'opposition, le combat qu'il a dû mener pour nous-mêmes être encouragés dans les combats auxquels on peut être confrontés. Toute proportion gardée, puisque nous, on n'a pas résisté jusqu'au sang comme il l'a fait. On sait qu'aujourd'hui, certains de nos frères et sœurs de par le monde vont jusqu'à donner leur sang pour leur foi. Nous devons prier pour eux, nous devons essayer de les aider. Il y a des associations qui essayent d'aider ces personnes. Souvent, on peut dire, oh, c'est loin, on a d'autres chats à fouetter. Mais ces gens sont là pour combattre jusqu'au prix de leur vie. Une continuation de l'idée d'athlétisme, c'est que dans la Bible, il y a des récompenses pour ceux qui courent. Je ne sais pas si vous avez regardé le match de Rafael Nadal où il a gagné sa 10e coupe de Roland-Garros, ce qu'on appelle des fois le saladier ou la coupe des mousquetaires. Et là, comme c'était la 10e, c'est un fait incroyable, inédit. On lui a gravé sa propre coupe. Donc il a sa propre coupe qu'il peut garder chez lui dans son salon. Sinon, la coupe, elle revient, elle est remise en compétition. Et à la fin, pendant qu'on fait les discours, il y a quelqu'un qui très vite inscrit le nom du gagnant. Avec Nadal, il pourrait presque le faire à l'avance lorsqu'il est en forme. Mais il est question de quatre types de couronnes. Il y a une couronne incorruptible pour celui qui mène cette course comme suivant les principes que le Saint-Esprit nous donne ici par cette lettre, par ce chapitre 12, le début du chapitre 12. Il y a une couronne incorruptible. C'est vrai que la plupart du temps, maintenant, Nadal, il a une couronne, une coupe qu'il va garder, mais la plupart, les autres, c'est quelque chose qui est futile, qui passe, qui est passager. Et pourtant, ils se lèvent tous les matins, ils vont faire des énormes sacrifices toute leur vie pour arriver à gagner, inscrire leur nom dans les tablettes, comme on dit. Paul disait en Corinthiens 9, 9:25, tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, parce qu'on leur donnait des feuilles de laurier qui fanaient, qui tombaient, et nous, c'est une couronne incorruptible. Il y a une autre expression, c'est une couronne de gloire, dans Philippiens 4:1, ou 1 Thessaloniciens 2:19, qui donc est en effet notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus à son avènement ? Lorsque le souverain pasteur apparaîtra, dit Pierre, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Il y a cette promesse d'une couronne de gloire. Et une couronne de justice de Timothée 4:8, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Et puis il y a la couronne de la vie, la quatrième, Jacques 1:12. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Il en est question aussi dans l'Apocalypse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Il est dit qu'il a couru pour la joie qui était réservée à Jésus. Jésus, sa joie, en fait, c'est chacun de nous, chacun de vous, de savoir que vous êtes sauvés par lui, de savoir que vous lui faites confiance, que vous lui manifestez de la foi, que vous partagez son nom avec ceux qui vous entourent, son espérance, c'est une joie pour lui. Bien sûr, il a retrouvé le Père, il siège dans les cieux, et ça c'est une grande joie. Mais nous, nous sommes appelés à ressembler à Jésus-Christ. Et certains disent, oui, mais c'est un peu égoïste de vouloir courir pour ces couronnes. Alors, il n'est pas dit que ça doit être notre motivation, c'est quelque chose que le Seigneur nous donne. Et dans l'Apocalypse, il y a cette vision des anciens, qui représentent un peu tous les croyants, qui remettent les couronnes devant le trône de Dieu. Ces couronnes que vous essayez que vous allez récolter dans votre service pour lui, ce n'est pas pour votre gloire, c'est pour la sienne. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ces conseils. Merci de nous faire réaliser que nous sommes engagés, que nous le voulions ou non, dans une course qui est difficile, une course qui, par simple bon sens, nous implique, nous exige de nous que nous enlevions les fardeaux qui nous encombrent, que nous courions cette course avec foi, que nous enlevions ce péché de l'incrédulité. Et c'est vrai que ce péché du manque de foi, du doute, c'est la mère de tous les péchés. C'est elle qui fait que nous devenions découragés, que nous soyons tentés par d'autres péchés. Pardonne-nous, Seigneur, et merci pour ton exemple. Merci de ce que tu es celui qui est à l'origine de notre foi par ta parole, celui qui vit avec nous, et merci pour la destinée que tu nous as promise d'être en ta présence. Merci pour tous ces hommes non parfaits, mais qui, par leur foi, ont accompli de grandes choses et qui sont là tout près de nous, dans nos mémoires, dans nos Bibles, pour nous encourager et nous faire gagner cette course, Seigneur. Aide-nous tous à courir pour gagner. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.